Nous poursuivons donc aujourd'hui notre série de prédications sur l'évangile de Luc. Et pour résumer rapidement, Jésus est en marche vers Jérusalem et il doit à la fois enseigner ses disciples, les préparer à ce qui va arriver et aussi faire face à l'opposition grandissante des pharisiens qui devient de plus en plus manifeste, de plus en plus vive. Sur son parcours, Jésus fait de nombreux miracles qui interrogent les spectateurs. Il y a ceux qui sont convaincus que seul un prophète, un envoyé de Dieu, peut réaliser de telles choses. Mais il y a aussi ceux qui refusent de croire et qui demandent toujours plus de signes. Face à cette société divisée, à plusieurs reprises, Jésus dira qu'il est urgent de prendre position et de bien choisir ses maîtres à penser. Nous verrons que Jésus appelle son auditoire à faire la différence entre les apparences, qui peuvent être trompeuses, et l'attitude du cœur. Le légalisme, c'est-à-dire le respect des rituels, de la forme, ce n'est pas ce qui sauve. Obéir à la loi ne consiste pas seulement à respecter certaines règles dans leur forme, mais avant tout de les respecter dans l'esprit, c'est-à-dire à pratiquer l'amour, dans l'humilité et dans un esprit de service. Le texte que nous méditerons ce matin peut être découpé en 5 parties. Les premiers versets nous relatent une scène où Jésus chasse un démon. Ils sont suivis d'une mise en garde par Jésus. Puis nous voyons la foule qui réclame à Jésus un signe supplémentaire. La parabole de la lampe, qui est, je pense, déjà bien connue, qui a dû être développée et que je n'aborderai pas ce matin. Et puis un réquisitoire très violent de Jésus contre les pharisiens. Il y a toute une fixation de « malheur à vous, pharisiens, qui ?» Et donc, on s'intéressera à cela dans l'idée de se dire que ce qui est dénoncé par Jésus peut peut-être nous aider à comprendre ce vers quoi nous devons aller, ce vers quoi nous devons tourner les yeux, pour reprendre la formulation d'Antoine ce matin. Je ferai une première lecture où on voit Jésus chasser un démon. Je vous le lis dans la version Semeur. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns parmi les témoins disaient « C'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » Dans ces premiers versets, nous voyons que Jésus opère une guérison. Dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que l'homme qui l'a guéri était non seulement muet, mais aussi aveugle. Et cela m'a rappelé une autre guérison miraculeuse d'un aveugle qui nous est rapportée dans Jean 9, où les disciples interrogent Jésus en lui disant « Mais Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Mais on peut penser que la guérison qui est relatée dans l'évangile de Luc ici est encore une occasion de manifester les œuvres et la puissance de Dieu. Jésus y apparaît comme celui qui a le pouvoir de nous délivrer de nos infirmités. Et le texte nous dit que la foule fut en admiration. La puissance de Dieu est manifeste et s'impose à beaucoup, mais quelques-uns dirent « c'est par le diable lui-même ». Qu'il chasse les démons. Il y a donc à l'époque une minorité, mais aujourd'hui toujours autant de gens pour refuser de reconnaître la toute-puissance de Dieu. Aujourd'hui, on fait moins allusion au diable pour expliquer les choses, puisqu'on ne croit plus en Dieu, on ne croit pas au diable non plus, la plupart du temps. D'autres vont réclamer un signe venant du ciel. Ils viennent d'en voir un. Mais ils en demandent un autre. Comme on dit parfois, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cette scène est une illustration de notre monde divisé, où Satan conteste sans cesse l'autorité et la suprématie de Dieu. dans les versets 17 à 19 que je ne lirai pas, Jésus leur répond qu'un royaume divisé ne saurait subsister. Pourquoi donc Satan aurait-il permis que Jésus séduise les foules en chassant des démons? Cela n'a pas de sens, leur fait-il remarquer, que de penser que Satan se combat lui-même. Il travaillerait donc à sa propre ruine. Et Jésus en tire une conclusion, puisque je ne chasse pas les démons par l'esprit du diable, c'est bien la preuve que l'esprit de Dieu s'est approché de vous, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce royaume, il est venu en la personne de Jésus, qui a combattu le diable et qui l'a vaincu. Au stade du ministère de Jésus où nous en sommes, Jésus a déjà remporté une première victoire lors de la tentation après 40 jours dans le désert, de nombreuses victoires aussi lorsqu'il a effectué des guérisons, et nous savons que la plus belle des victoires est à venir. Si nous continuons notre lecture, nous y trouvons ce que j'ai appelé la parabole de l'homme fort. Jésus dit ceci: « Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Dans cette parabole, l'homme fort qui garde la maison, c'est le diable. Il est puissant et il est difficile de lui échapper. Mais l'homme plus fort qui vient le maîtriser, bien sûr, c'est Jésus. Il lui enlève, nous est-il dit, toutes ses armes. Cette victoire totale, Jésus l'assurera lors de la résurrection et nous en sommes déjà bénéficiaires. Mais nous savons que nous en bénéficierons totalement après notre résurrection, lorsque le diable aura été jeté, nous est-il dit, dans l'étang de feu pour l'éternité. Nous serons alors complètement délivrés de l'emprise de Satan, du pouvoir que le péché aura exercé sur nous durant notre vie terrestre, et nous vivrons l'éternité dans la présence bienveillante de Dieu. Vous avez peut-être, comme moi, été frappé par le verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus l'a dit qu'il y a une seule alternative, il y a deux possibilités. On ne peut pas rester entre les deux neutres et puis se dire on verra bien. Mon actualité me montre qu'il y a effectivement un jour où il faut choisir. Et si on n'a pas choisi ce jour-là, c'est trop tard. Le diviseur dont il est question, c'est Satan, qui veut séparer l'homme de son Créateur. Jésus est celui qui rassemble. Une image de Jésus qui est, je pense, sur le mont des Oliviers, qui regarde Jérusalem et qui dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi ?» Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Cette volonté de Dieu de rassembler, de réparer, de réunir, c'est une volonté constante. Le texte se poursuit par une mise en garde. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, et c'est ce qui vient de se produire, cet esprit erre ça et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc, et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit, encore plus méchant que lui, et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Jésus veut dire par là que s'engager à le suivre, accepter son pardon, C'est un engagement sérieux qui nécessite aussi de la persévérance. Il ne faut pas prendre Satan à la légère. Le chasser ne suffit pas. L'image ici nous dit, il peut revenir. Et je crains que dans notre vie chrétienne, nous ayons tous connu des personnes qui un jour ont accueilli le message de l'Évangile avec joie, mais n'ont pas suffisamment entretenu leur foi par une lecture régulière de la parole, en tissant des liens solides avec d'autres chrétiens, en fréquentant une assemblée de leur choix, et qui petit à petit se sont éloignés. Rappelez-vous la parabole du semeur avec ses différents terrains où la graine peut monter tout de suite mais pas avoir de racines suffisantes. Et bien là, Jésus nous dit attention à premier enthousiasme. C'est super, vous êtes libérés, la maison est toute propre. Mais elle est encore plus attirante pour d'autres. Et on sait que le diable rôde, rugissant, sachant qui il va essayer de saisir. Et on dit souvent dans les églises, et je pense en avoir été témoin plusieurs fois, que quand on prend position pour le Seigneur, on est davantage attaqué. On prie souvent pour les jeunes baptisés parce qu'on sait qu'ils vont avoir des combats à livrer. Eh bien ici, les paroles de Jésus nous disent qu'il est important de ne pas laisser le vide s'installer, mais qu'il faut nourrir, entretenir notre foi et notre amour pour Dieu. Satan ne capitule pas vite. Il tentera de reprendre ce que Jésus lui a arraché. Soyons donc vigilants, mais soyons aussi sans crainte, car Jésus a vaincu Satan une fois pour toutes. Et dans Jean 10, au verset 28 et 29, il dit « Je connais mes brebis, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Nous avons un berger qui veille, il nous suffit de faire appel à lui pour être certain qu'il veille sur nous. » En conclusion de ce passage, une femme s'écrie « Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » L'obéissance à Dieu est ce qu'il y a de plus important. Plus important encore que la personne de Jésus lui-même. Là, il dit en fait l'important, bien sûr, ce que je fais, c'est important, mais obéir à Dieu, c'est bien plus important. Et je pense que quand il dit ces paroles, il pense aussi au fait que les Juifs sont très fiers de leur généalogie. Il leur dit, mais c'est pas vos parents ou vos grands-parents, c'est pas vos ancêtres qui sont importants, c'est l'obéissance à Dieu. Nous arrivons à ce stade du texte où la foule demande un signe de plus. Comme la foule grossissait autour de lui, il dit « Les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Dans le verset 16, il est dit que certains veulent lui tendre un piège, et que c'est pour ça qu'il réclame un signe venant du ciel. Alors, pourquoi Jésus refuse-t-il de donner ce signe ? Probablement parce qu'il sent qu'on veut lui tendre un piège et il ne va pas donner dans le piège. Mais d'autres traductions traduisent le verset 16 que je viens de citer en disant « D'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. » Quoi qu'il en soit, on peut douter de la sincérité de leur interrogation, car Dieu a déjà donné de nombreux signes, dont celui de Jonas, et on peut se demander s'ils n'ont pas été convaincus par tous ces signes. Est-ce qu'un signe supplémentaire va vraiment changer leur disposition de cœur? D'ailleurs, Jésus ne vient-il pas d'en donner un de signe, venant du ciel, mais ils n'y croient pas. Alors pourquoi, parmi tous les exemples, Jésus choisit-il celui de Jonas? Je tente plusieurs explications, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de la question. Mais on pourrait dire Jésus, Jonas, même mission. Jonas avait comme mission d'annoncer aux Ninivites que Dieu leur offrait son pardon s'ils changeaient d'attitude. Or, Jésus est celui qui a donné sa vie, ça nous a été rappelé, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les missions de Jésus et de Jonas ont le même objectif, offrir le pardon de Dieu. Et vous savez que Jésus, en route sur Jérusalem, prépare ses disciples à ce qui va arriver. Deuxième explication, Jonas a offert le pardon aux Ninivites. Alors, bon, les Ninivites, c'est les habitants de Ninive, mais il faut savoir que pour Jonas, les habitants de Ninive, c'est les pires ennemis d'Israël à l'époque. Ce n'est pas des voisins un peu lointains comme ça, c'est ceux qui sont leurs pires ennemis de l'époque, qui vont les déporter, etc. Et c'est à eux que Jonas va offrir le pardon. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Personne n'est trop mauvais aux yeux de Dieu pour que Dieu se détourne de lui. Dieu ne demande pas un certificat de bonne conduite avant d'accorder son pardon, mais il demande un repentir sincère et une vraie conversion, disons-nous, c'est-à-dire un vrai changement d'attitude de cœur et l'engagement de tout faire pour l'obéir par la suite. De même, Jonas a offert le pardon de Dieu à des étrangers, pire, à des ennemis. Jésus, lui, a offert le salut à la Samaritaine, à la femme adultère, aux collecteurs d'impôts détestés, à des pécheurs notoires. Une troisième raison pourrait être que Jésus commence à annoncer certaines choses. Dans Matthieu 12, qui est un texte parallèle à Luc 11, on peut lire au verset 40 « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus annonce ainsi sa mort et sa résurrection le troisième jour. Quatrième tentative d'explication. Beaucoup des spectateurs qui sont là, et notamment ceux qui réclament un signe venant du ciel, attendent un Messie puissant, un libérateur, un homme capable de les délivrer de la domination romaine, un nouveau David par exemple. Un commentateur comprend un signe venant du ciel, cette locution, comme un miracle extraordinaire dans le ciel. Par exemple, il aurait demandé à Jésus de faire bouger les étoiles de façon inhabituelle. Donc, la recherche du sensationnel, comme si un miracle plus sensationnel allait nous convaincre. Est-ce que c'est plus difficile pour Dieu de faire bouger les étoiles que de guérir un aveugle? Je ne sais pas. Je ne suis pas à sa place, mais ça ne me paraît pas forcément plus convaincant. Plus spectaculaire peut-être, mais convaincant. Jésus, en donnant l'exemple de Jonas, suggère donc qu'il n'est pas ce type de libérateur. Jonas, c'est cet homme qui commence par désobéir, par fuir, par être jeté à la mer. Honnêtement, arriver sur une plage rejetée par un poisson, ce n'est pas vraiment la marche triomphale dans Rome quand on avait vaincu les ennemis, quoi. Jésus commence à annoncer que sa victoire, il ne l'obtiendra pas par les armes, pas par des prodiges, pas par des choses sensationnelles, mais tout simplement par l'obéissance, l'humilité et le don de sa personne. Pour conclure ce passage, il nous est dit à deux reprises, il y a ici plus que Salomon, il y a ici plus que Jonas. Jonas a fini par remplir sa mission, mais à contre-cœur, contraint par Dieu, alors que Jésus pour nous est un exemple d'obéissance. Philippiens 2, verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Effectivement, il y avait plus que Jonas ce jour-là. Au verset 31 et 32, Jésus souligne l'endurcissement du cœur de ceux qui ne croient pas en son message. Il va même jusqu'à dire qu'ils sont plus endurcis que ne le furent les Ninivites, qui eux se sont repentis. Plus endurcis que la reine de Saba. J'ai envie de dire à ceux qui n'ont pas encore reconnu en Jésus celui qui leur offre le pardon de leurs péchés, l'Écriture dit dans Hébreux 4, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Nous sauterons donc les versets 33 à 36 qui nous parlent de la parabole de la lampe pour faire une lecture à compter du verset 37, où Jésus commence son réquisitoire contre les chefs religieux. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats. » Mais à l'intérieur, vous êtes rempli du désir de voler et plein de méchanceté. Imaginez la scène, vous allez chez quelqu'un et vous tenez ces propos-là à la personne qui vous invite. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens! Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes, comme la menthe et la rue, j'ai appris que la rue était une herbe, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues, vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant, mais maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. Oui, malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, enseignant de la loi. Vous êtes emparé de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quel réquisitoire! Si vous voulez bien, nous allons essayer de les reprendre point par point. Le pharisien commence par remarquer que Jésus n'a pas fait les ablutions rituelles avant le repas. Et il s'en étonne. Et on pourrait, dans un premier temps, se dire, bah oui, il ne s'est pas lavé les mains, c'est pas bien, quoi, avant de passer à table. En fait, il faut savoir que les ablutions rituelles, ce n'est pas une mesure d'hygiène, c'est un effet collatéral, j'allais dire, mais les ablutions rituelles, c'est quelque chose d'abord qui n'est demandé qu'au prêtre. Or là, on n'est pas dans une situation où c'est un prêtre qui est présent. Et c'était simplement un symbole pour montrer qu'il se purifiait de toute contamination due au contact de quelque chose d'impur. Les pharisiens n'étaient pas tenus de faire ces ablutions. Mais ils les faisaient et de façon très visible, très ostentatoire, et ils les imposaient aux autres. La réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Ce que Jésus dénonce ici, c'est une forme de légalisme, mais aussi d'hypocrisie. On respecte les apparences, on fait même plus que ce qui est imposé par la loi, mais le fond du cœur, lui, reste dur, insensible. L'apparence est séduisante, l'emballage est beau, mais l'intérieur est sale. Jésus va se dire, mais vous êtes fous. Est-ce que vous croyez que vous trompez Dieu par ces apparences? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Je ne sais pas si ça vous fait penser au même verset que moi, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà l'offrande qui plaît à Dieu. Et Jésus continue son réquisitoire. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Là encore, les pharisiens respectent la forme, mais ils oublient ce qui donne sa valeur à la dîme et aux offrandes, l'état d'esprit dans lequel on donne et l'amour que cela manifeste. Dieu ne demande pas de faire plus que ce qui est prescrit, que ce que prescrit la loi. Dans Matthieu 23, verset 23, on peut lire « Ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est la justice, la bonté, la fidélité, voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » On trouve dans Marc 7 un exemple de détournement de la loi. C'est Jésus qui parle aux pharisiens encore. « Ah, vous vous entendez à merveille pour contourner et annuler la loi de Dieu au profit de votre tradition. » Ainsi, par exemple, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. Que celui qui injurie et maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un n'a qu'à déclarer à son père ou à sa mère « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande sacrée. » Autrement dit, ce que j'aurais pu et même dû te donner pour ton entretien, ben j'en ai fait cadeau au temple. Et alors, il est dégagé de ses obligations envers ses parents et vous ne lui permettez plus de rien faire, ni pour son père, ni pour sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par une tradition que vous avez vous-même établie et que vous vous transmettez les uns aux autres. Jésus fait ici une distinction très nette entre la tradition, ce qu'on a l'habitude de faire, et la loi divine. Entre ce que pratiquent les responsables religieux et ce que Dieu avait prescrit. La loi divine ne demande pas d'en faire toujours plus, mais de donner à Dieu la part qui lui revient. Si on parle d'argent, la loi prescrit de donner la dîme. La dîme, c'est un mot qui veut dire un dixième, 10% de la récolte. Et évidemment pas interdit dans d'en donner plus. Je ne voudrais pas me fâcher avec le trésorier de l'Église en disant... Non. Mais tout dépend dans quel état d'esprit on le fait. Si on arrive avec un gros chèque comme au loto, regardez ce que je donne aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit béni. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, il nous est dit. Si elle est discrète, je pense que l'offrande majorée sera agréée. Si elle est ostentatoire, je pense qu'elle n'a aucune valeur. Si au lieu d'argent, on parle de temps, est-ce que Dieu nous demande de tout lui consacrer, notre temps? Je ne crois pas. Je crois que Dieu nous donne différentes responsabilités. Pour beaucoup, notre première responsabilité, c'est notre famille. Et on voit les dégâts que ça peut faire aussi, de consacrer trop de temps à l'Église. Oui, on peut consacrer trop de temps à l'Église dans certaines circonstances, au détriment de la famille. Dieu attend de nous que nous donnions à l'Église et à nos familles leur juste part. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette juste part? Ah, ça, C'est une bonne question, ça. Je n'ai pas la réponse. Je crois que c'est à chacun d'examiner sa pratique. Ça peut être une réponse différente à certains moments. Mais mon propos serait plutôt de dire « tenons-nous vigilants ». Parce que quand on exagère dans un sens, il y a souvent des petits signaux d'alerte. Les enfants qui râlent parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu papa et qu'il avait promis ça et qu'il ne l'a pas tenu. Enfin, vous voyez, Bon, on doit savoir entendre ces signaux, on doit savoir y être attentif. Le verset 44 m'a laissé plus interrogatif à la première lecture. « Vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. » Moi, je me suis dit, dans un premier temps, si au cours d'une balade dans les bois, je sais pas, je venais à marcher sur une tombe qui soit un peu recouverte, je vois pas le problème que ça pose. C'est pas une profanation, on l'a pas fait exprès, alors quoi? Bien, j'ai lu dans une note que selon les rabbins, marcher sur une tombe rendait impur. Là, on sait tous les rapports qu'il y a avec la purification quand on a touché un cadavre. Eh bien, en disant cela, Jésus accuse les pharisiens d'être une source cachée d'impureté. Ceux qui suivaient les enseignements des pharisiens pouvaient être ramenés à pécher sans même le savoir, simplement parce qu'ils suivaient la tradition qu'on leur donnait. Et là, je me dis, c'est important de savoir être critique sur les enseignements qu'on reçoit aussi. Pas critique pour critiquer, pour démolir, mais simplement examiner, nous interroger sur le bien fondé des enseignements reçus. Dieu nous a donné des conducteurs spirituels pour veiller sur son peuple, et on peut l'en remercier, mais cela ne nous dispense pas totalement de notre responsabilité individuelle dans ce que nous faisons. Le réquisitoire continue. « Oui, malheur à vous, enseignants de la loi, vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. » Cela m'a rappelé une recommandation qu'avait faite mon pasteur à une des premières réunions d'enseignants à laquelle j'avais assisté, où notre pasteur nous avait dit « Ne prêchez pas au-dessus de ce que vous êtes capable de faire vous-même. » Ou pour paraphraser le verset précédent, « Ne mettez pas sur les autres des fardeaux, sur les épaules des autres, des fardeaux que vous ne sauriez pas porter vous-même. » C'est une pensée qui me revient souvent quand je rédige des messages. Et je dois reconnaître que je n'ai pas su toujours respecter cette consigne. Je n'ai pas toujours été à la hauteur des choses que j'ai prescrites à d'autres en disant « ce serait bien de faire ça ». C'est plus facile de dire que de faire. Mais là où ça devient gênant, c'est si l'écart entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit devient par trop criant. Pardon, c'est pas celui-là, c'est ici. Le prédicateur perd sa crédibilité. J'allais dire, ça l'Église s'en remettra. Mais s'il discrédite aussi la parole qu'il apporte, ça, c'est beaucoup plus gênant. À propos des fardeaux, me sont revenues deux paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de la croix, c'est quand même l'idée d'un effort, ça pèse une croix sur les épaules. Mais il y a aussi cette parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Notre rôle en Église n'est pas d'alourdir le fardeau, mais d'aider à le porter. Le légalisme, vous savez ces phrases qu'on entend, « Il faut ». Ou le jugement, tu n'aurais pas dû, il ne faut pas. Un manque de compassion, de l'indifférence. Tout ça, ça peut être un fardeau qui pèse dans l'Église. Par contre, un petit mot d'encouragement, un sourire, un service rendu, ça peut contribuer à alléger le fardeau. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. C'est-à-dire que là, il est reproché aux conducteurs d'Israël de réclamer le monopole de la vérité. il n'y a que qui détiendrait la vérité. Et il dit non seulement vous n'utilisez pas cette clé pour entrer, mais vous condamnez la porte pour les autres. Vous imaginez la gravité de cette accusation. Être un obstacle à la conversion des gens. Alors je ne dis pas du tout que nous en soyons là. Mais est-ce qu'à certains moments nous n'avons pas des certitudes et nous avons besoin d'avoir des certitudes? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est une certitude, une vérité. Mais ce qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la façon dont nous la comprenons. Nous pouvons, nous tromper dans la façon de comprendre certaines choses. Et il ne faudrait pas qu'en voulant imposer notre façon de comprendre, eh bien nous fassions obstacle à certains. Il y a des différences d'interprétation sur des sujets le plus souvent non essentiels. Je prends cette mise en garde de Jésus comme un avertissement en disant « attention ». Pas de dogmatisme, pas d'intransigeance. Ça peut avoir comme conséquence des disputes, des divisions, être un obstacle à la communion fraternelle que Dieu attend dans son Église. J'en arrive à la conclusion. Veillons à ne pas tomber nous-mêmes dans les travers que Jésus a dénoncés chez les pharisiens. Ne soyons ni hypocrites ni orgueilleux. Oh, vous allez me dire, la critique est sévère, oui. Mais je pense simplement à cette parole, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On peut être sensible à l'orgueil, même quand on est un chrétien qui a beaucoup d'expérience. On peut être sensible à la reconnaissance. C'est tellement facile de tomber dans ces travers. Deuxième avertissement aussi, veillons à ne pas nous contenter de suivre la lettre, mais l'esprit. Est-ce qu'il faut lire sa Bible tous les jours? Vous voyez une phrase, est-ce qu'il faut? Je pense que c'est une bonne habitude que d'avoir une lecture quotidienne. Je pense qu'on ne perd pas son salut si un jour on oublie. Mais je pense qu'on n'a rien gagné non plus si tous les jours on lit et puis on se dit « bon allez, ça y est, j'ai fini mes 10 minutes, je peux faire autre chose. » Voilà. Pas seulement se contenter de suivre la lettre, mais l'esprit. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre, c'est privilégier le rite, la tradition, le respect des formes, des règles, alors que l'esprit, c'est la pratique de l'amour. Vous savez que le plus grand des commandements, c'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'en ai oublié de faire défiler. Et je terminerai par une prière que je pourrais résumer ainsi. Prions que Dieu développe en nous les fruits de l'Esprit. Parce qu'en les relisant, j'étais frappé du contraste avec tout ce qui était dénoncé chez les pharisiens. D'abord, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça, c'est quand même une sacrée libération. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, on dit aussi la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, bien sûr que la loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu bénisse sa parole.